Alors nous sommes aujourd'hui Radio Crochet en plein cœur d'Alternatiba, le festival qui a lieu une fois par an cette année, c'est au Bastion. Un festival qui a trait, qui, comment dire, interroge notre rapport au climat et à la nature avec moult associations, moult collectifs qui sont là. On pourrait citer Stoptisa, etc., etc. Et nous sommes en compagnie de Juliette, que l'on remercie beaucoup de prendre un petit peu de temps pour nous parler. Bonjour à toi Juliette.
Bonjour, merci à vous pour l'invitation.
Mais bienvenue. Alors Juliette, tu es membre fondatrice d'une association qui est l'Association pour la liberté de Lula à Genève.
Oui.
Alors on dit à Genève parce qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure, il y en a bien entendu ailleurs qu'à Genève.
Oui, en fait, il y a donc un comité pour la liberté de Lula international et puis donc nous sommes une antenne ici du comité à Genève.
Très bien. Alors pourrait-on peut-être commencer par présenter le personnage? Qui est donc Lula dont on va parler aujourd'hui?
Donc Lula, c'est l'ex-président du Brésil qui a fait deux mandats au début des années 2000. Donc c'est un politicien du PT, un parti de gauche au Brésil, et donc qui a mis beaucoup de choses en place pendant ces deux mandats et qui a terminé donc toutes ces années au pouvoir avec quand même plus de 85% d'approbation de la population. Même Barack Obama lui avait dit que c'était l'homme du moment. Donc je crois que c'est jamais arrivé dans l'histoire qu'un homme politique ait autant de succès que lui. Donc voilà.
Voilà. Et depuis, effectivement, il y a eu un ensemble d'événements qui l'ont conduit en prison. Alors tu vas certainement nous expliquer pourquoi. Et à l'aune de la prochaine élection présidentielle, eh bien, Lula pourrait se présenter alors qu'il est encore en prison.
Alors, il le pouvait, mais maintenant, il ne peut plus.
Voilà. Alors, effectivement, qu'est-ce qui a conduit l'ex-président Lula en prison?
Alors, bon, c'est une assez longue histoire. Donc, une fois qu'il a terminé ses deux mandats, c'est Dilma Rousseff qui a pris la présidence. Donc, c'était aussi quelqu'un du PT, du même parti, qui donc a continué sur la même lancée politique. Elle a fait un premier mandat. Et elle a de nouveau été élue pour un deuxième mandat. Et puis donc, en 2016, il y a eu tout un procès assez théâtral. Et donc, elle a été destituée pour des raisons fiscales. Aujourd'hui, elle a été totalement innocentée. Ça a été reconnu que ce n'était pas vrai, qu'elle n'avait pas maquillé les comptes et tout ça. Mais voilà, elle n'a pas repris son poste en tant que présidente. Elle a été destituée en 2016. Donc voilà, c'était, on peut dire, une sorte de coup d'État judiciaire. À ce moment-là, c'est assez compliqué. Ils avaient mis en fait en place un système pour lutter contre la corruption qui s'appelait le lavajato. Et donc, cette procédure avait donc pour but de diminuer la corruption parmi les politiciens au Brésil. Et donc, suite à toute cette procédure, en fait, la droite s'est mobilisée pour la destituer, certainement parce qu'ils devaient probablement... ils allaient probablement être victimes de ce système
On peut dire qu'au Brésil, voilà. La corruption est un réel problème endémique et extrêmement prégnant.
Oui, en effet. C'est un véritable problème. Je pense que tous les partis sont plus ou moins touchés. Et donc, c'est pour ça que ce système avait été mis en place. Et finalement, la personne qui a été mise en prison, il n'y en a qu'un seul, contre qui il n'y a aucune preuve, c'est Lula. Et il y a d'autres politiciens qui ont été pris avec des avions, plein de drogues, de choses comme ça. Oui. Il ne s'est passé absolument rien avec eux. Donc voilà, ils ont pris ce lavajato et ça s'est retourné contre les personnes qui n'avaient rien fait.
Et c'est-à-dire qu'on ne veut pas de Lula comme candidat aux prochaines présidentielles?
Exactement. Lula a été mis en prison, c'est vraiment une prison politique. Pourquoi est-ce qu'on l'a mis là? Parce que c'est sûr, il allait gagner les élections, même au premier tour, d'après les sondages. Et donc la droite ne veut absolument pas qu'il retourne au pouvoir.
Qu'il recouvre sa fonction. Oui. Alors dis-moi, qu'en est-il des réactions qui ont eu lieu après l'incarcération de Lula? La question contient deux volets. J'aimerais d'abord que tu m'en dises, que tu me dises quelques mots concernant la réaction de la population, des différents partis politiques, et également ensuite des réactions des pays voisins. y a-t-il eu des pays, alors on sait qu'en Argentine c'est Macri, donc c'est plutôt à droite, mais pourquoi pas peut-être le Venezuela ou alors également l'Équateur, y a-t-il des pays qui ont pris fait et cause pour Lula?
Ce qui se passe, c'est que la population est vraiment très divisée. Il y a une partie qui soutient vraiment Lula et qui se bat pour lui, qui est révoltée de cette situation. Et puis, il y a une autre partie de la population qui, au contraire, est en faveur de la droite et de ce coup d'État qui s'est vraiment mis en place. C'est un coup d'État plutôt judiciaire. Pourquoi est-ce que je parle de coup d'État ? Parce que, en fait, les lois brésiliennes n'ont absolument pas été respectées tout au long du procès. La constitution brésilienne n'est pas respectée. Les politiciens ont le droit de se présenter, même s'ils ont une procédure judiciaire en cours. Il y a même un article qui est sorti hier dans les journaux. Il y avait plus de 1400 politiciens actuellement qui se présentent pour les élections le mois prochain et qui ont une procédure judiciaire en cours. Il n'y en a aucun qui est en prison. Il y a seulement Lula, parce que la constitution brésilienne dit qu'un candidat a le droit de se présenter aux élections tant que tous les recours judiciaires ne sont pas
opérés.
Exactement.
Okay.
Voilà. La population brésilienne est vraiment très divisée et c'est vraiment la voix du peuple qui a été étouffée dans cette élection.
D'accord.
Est-ce qu'il y a des soutiens internationaux ? Oui, bien sûr. Il y a de nombreux politiciens du monde entier qui se sont mobilisés, qui ont fait des lettres. L'ONU s'est aussi positionnée en faveur de Lula. L'ONU a émis un document qui a demandé au Brésil de respecter la constitution brésilienne, qu'il avait le droit de faire campagne depuis la prison. Chose qui n'a pas été respectée. Ils ne l'ont pas autorisé à faire campagne, à parler avec les personnes. Il est donc en prison et a vraiment le droit à seulement 2 visites par semaine. Donc, il a même très peu de contact avec les personnes de son parti.
D'accord. Et alors maintenant, que va-t-il se passer ? Donc, effectivement, pour un temps, on a cru qu'il aurait pu et il a fait campagne depuis la prison. Mais désormais, tout cela donc est plus possible. Alors, voilà, quelle va être la stratégie du parti ? Est-ce que c'est y aura-t-il un porte-parole qui va prendre sa place ou comment ça va se passer ?
Donc Lula, maintenant, il est officiellement plus candidat parce que donc le délai, je crois que c'était le 17 septembre pour les ils avaient jusqu'au 17 septembre pour enregistrer le nom du candidat sur les machines de vote. Le vote au Brésil est électronique. Et donc, ils ont décidé ce jour-là que Lula, donc, vu qu'il était en prison, qu'ils n'arrivaient pas à le sortir, qu'ils ne l'autorisaient pas à faire campagne, ils ont décidé que son vice deviendrait le candidat à la présidentielle. Et donc maintenant, il y a une nouvelle personne qui est une femme, Manuela Dávila, qui est la vice-présidente du d'Haddad.
Ouais. Et peut-on dire qu'elle a le même soutien populaire, qu'elle aurait les mêmes chances que Lula ? Ou là, c'est également une manière finalement d'éteindre ce foyer de... Enfin, les personnes qui soutenaient Lula et qui sont un foyer, si j'ai bien compris, de remise en question fondamentale de la politique au Brésil.
Alors, c'est sûr que le soutien populaire n'est pas le même. Haddad était ministre de l'Éducation pendant les gouvernements de Lula. Il a été aussi un élu à São Paulo, qui est une ville très grande. Mais c'est sûr qu'il n'a pas toute l'aura de Lula. Il n'est pas aussi connu. Donc oui, il a le soutien. Mais maintenant, pour les semaines qui viennent, le but du Parti des Travailleurs, c'est vraiment de rassembler les voix pour que les gens qui voulaient voter pour Lula votent pour Haddad. Parce que la gauche est assez divisée. Il y a aussi d'autres candidats de gauche qui se présentent. Oui, le candidat Haddad a des chances d'être élu, mais c'est pas aussi facile que pour Lula qui, d'après les sondages, aurait gagné au premier tour. Sans compter qu'au Brésil, les médias manipulent énormément les informations, ce qui fait qu'ils présentent des sondages dont les chiffres restent à discuter. Enfin voilà.
Ouais, donc c'est vraiment compliqué. Concernant la peine de prison de Lula. Qu'en est-il ? Est-ce que, d'une certaine manière, il pourrait recouvrer la liberté, que ce soit à l'aune, je ne sais pas moi, d'un accord ou d'une...
Donc Lula a été condamné à la prison absolument sans raison. Le procès judiciaire qu'il avait sur le dos concernait un appartement, un triplex, aurait été un appartement pot de vin. En première instance, le juge avait déclaré qu'il n'y avait aucune preuve contre lui, mais qu'il le condamnait quand même sur conviction, ce qui est quand même assez incroyable. Le procès en deuxième instance a donné le même résultat. Il n'y a actuellement aucune preuve de la culpabilité de Lula. Au contraire, les avocats qui viennent régulièrement à Genève et que j'ai rencontrés la semaine dernière affirment qu'ils ont démontré que cet appartement ne lui appartient pas, qu'il ne lui a jamais appartenu, mais tout de même, il est en prison. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il est en prison ? Parce que, en fait, le général du Brésil avait dit que s'il ne se rendait pas en prison, il ferait un coup d'État militaire. Il s'est rendu en prison, même s'il n'aurait pas dû y aller, pour montrer qu'il respectait le système judiciaire, bien que le système judiciaire en fait ne respecte pas les lois et la constitution brésilienne.
C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, il revendique le fait de purger sa peine, d'une certaine manière.
Oui, on peut dire ça. En fait, il veut que son nom soit lavé. Oui. Et même si le président Haddad est élu, bien sûr, c'est un président de gauche qui... on l'espère, va mettre de l'ordre un petit peu dans ce système judiciaire qui est totalement corrompu. Mais Lula ne veut pas sortir de prison du jour au lendemain. Il veut que son nom soit lavé. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le juge qui l'a condamné est un juge clairement partial parce qu'on le voit régulièrement à des événements publics, que ce soit au Brésil ou aux États-Unis, avec les opposants politiques de Lula.
Ah, d'accord, ok. Donc, on peut dire que le devoir de réserve, là, n'est en aucune manière respecté de la part même de l'autorité judiciaire ?
Absolument pas.
D'accord. Donc même en cas d'amnistie, par exemple, on pourrait s'attendre à ce que Lula la refuse. En tout cas, ne la demande pas.
Je crois qu'il a vraiment envie de sortir de prison. Oui. Vu que les conditions d'incarcération sont vraiment difficiles, comme je le disais tout à l'heure, Il a le droit à seulement 2 visites par semaine. Mais je crois que pour lui, il s'agit avant tout maintenant de recouvrer son honneur, parce que son nom a été sali. Et même si donc il y a du soutien international, comme j'ai dit, des présidents, le pape aussi a apporté son soutien à Lula. Je crois que pour lui, la question de l'honneur est vraiment importante parce que sa famille toute la famille a pâti de ça. Sa femme est même décédée récemment. Donc je pense que le stress qui était sur toute la famille est énorme. Et aussi, j'en profite pour dire qu'il y a tout un mouvement aussi pour demander à ce que Lula puisse recevoir le prix Nobel de la paix pour toutes les choses qu'il a fait.
Oui, excellent. Ça, c'est bon à savoir. Alors, justement, vous êtes ici, le comité pour la liberté de Lula à Genève. De quelle manière est-ce qu'on peut justement suivre l'actualité, se contre-informer, en savoir plus ? Il me semble que vous avez une page Facebook, en tout cas.
Oui, donc nous avons une page Facebook, c'est Comité Lula Libre Genève, Comité Lula Libre Genève. Enfin, je pense que si vous tapez sur Facebook, vous arrivez à nous trouver.
Et donc c'est plutôt via ce biais-là que l'on peut vous contacter ?
Pas seulement, on a donc aussi un email, c'est Lula Libre, donc LULALIVRE @outlook.com. Mmh.
D'accord, donc ça, c'est les moyens de vous contacter. Oui. De quoi est-ce que vous auriez besoin ? Est-ce que vous auriez besoin de dons financiers, d'aide, de lieux, de personnes qui vous invitent à vous exprimer pour que vous puissiez exprimer cette situation ?
Nous, en tant que comité à Genève, on n'a pas encore créé les comptes et tout ça. On ne gère pas du tout d'argent, on est complètement bénévole. Oui. Il y a donc le comité international Lula Livre qui, lui, peut récolter des fonds. Et puis, il y a aussi la CUT, c'est la centrale...
Unitaire du travail, c'est comme au Chili.
Oui.
Ouais.
Donc, il y a aussi la CUT, Centrale Única dos Trabalhadores, donc CUT, qui, eux, peuvent récolter des fonds. C'est sûr qu'on a besoin de ressources financières, hein, l'argent c'est le nerf de la guerre, mais je crois qu'en effet actuellement ce qui compte c'est d'avoir la parole, de pouvoir clamer haut et fort l'innocence de Lula et que le monde entier puisse savoir ce qui se passe au Brésil.
Donc voilà, nous sommes maintenant au mois de septembre et à la fin de ce mois, eh bien, une marche va être organisée, et si j'ai bien compris, elle est par vous ainsi que d'autres partenaires, pour justement expliquer également cette situation-là. Alors voudrais-tu nous en dire un petit peu plus ?
Oui, alors en effet, donc, de ce marasme économique et politique, l'insatisfaction de la population n'a fait que croître et donc a profité à la montée en flèche du mouvement d'extrême droite. Et donc le candidat de ce parti, qui s'appelle Jair Bolsonaro, a vraiment des propos extrêmement violents. J'ai rarement entendu quelqu'un se permettre de dire autant de choses. Pourtant, voilà, il y a d'autres personnalités politiques dans le monde d'extrême droite, mais lui, vraiment, se démarque particulièrement pour ses propos violents, pour le retour à la dictature, des propos machistes, homophobiques. Enfin, voilà, j'en passe. Donc le 29, nous allons nous mobiliser, donc pas seulement nous qui représentons le comité Lula Libre, et donc nous sommes indirectement donc liés au PT, le parti de Lula. Donc il y a aussi d'autres organisations qui se mobilisent avec nous. Il y a Solidarité Genève, le groupe PSOL Genève, qui est un autre parti politique de gauche, et puis aussi le bloc Latin American Network Initiative, voilà, Pueblos Unidos da América, donc qui est aussi une organisation de l'Amérique du Sud plus générale.
D'accord.
Donc on se mobilise tous ensemble pour dire jamais lui, pas lui, on ne veut pas qu'une telle personne puisse être présidente et diriger tout un pays.
Donc, absolument. Voilà. Ce sera donc le 29 septembre, Place des Nations, à partir de quelle heure ?
16h.
Voilà, oui. L'appel en tout cas est lancé. Et puis nous, eh bien, nous allons effectivement suivre toute cette affaire. Certainement que nous serons là le 29 pour capter peut-être les prises de parole. Et puis on en fera peut-être un bilan un peu plus loin pour reparler plus
avec
précisément de cette affaire Lula. Toi, pour en terminer très rapidement, comment est-ce que tu sens cette situation-là ? Comment est-ce qu'on perçoit les tensions au Brésil ? Penses-tu qu'effectivement l'élection présidentielle est d'ores et déjà faussée, ou qu'il y a quand même, ça vaut la peine quand même d'y aller, parce qu'on aurait pu penser au boycott au bout du compte ?
Alors, c'est vrai que des fois, on pourrait se dire que, mais est-ce que ça vaut la peine de se battre ? Est-ce qu'à la fin, il n'y aura pas un coup d'État militaire ? Il y aura pas... Mais peu importe, on ne peut pas s'avouer vaincu. Il faut au contraire défendre nos droits. Parce que voilà, si on s'avoue vaincu, alors là, tout est fini. Non, il faut vraiment qu'on continue à se battre. Et donc, on a besoin que vous vous mobilisiez avec nous pour lutter contre le fascisme au Brésil. Mais c'est vrai qu'on voit cette tendance-là dans le monde entier. Ça ne concerne pas que le Brésil.
Merci beaucoup, Juliette. Donc, membre fondatrice du Comité pour la liberté de Lula à Genève. On te souhaite bon courage pour la suite et on se retrouvera certainement le 29 et puis un peu plus loin.
Avec grand plaisir, merci.